BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse est 100% applaudi. On est 100% là à vos côtés jusqu'à 18h avec l'ouverture de Wall Street à l'instant en direct. Il est en effet 9h30 là-bas à New York. Notre Dream Team sur place, ouais, à nos côtés. John Plassard, Cité Gestion. Bonjour John, ravi de, vous retrouver.
Bonjour Guillaume, bonjour Antoine.
Et de nous retrouver tous ensemble avec Antoine aussi en fil rouge. Bonjour Antoine.
Bonjour Guillaume, bonjour John.
9h30 là-bas. Un peu plus de 15h30 ici en Europe, à Paris. Comment ça se passe, les premiers instants de cotation sur le marché américain aujourd'hui, Antoine ?
C'est très mitigé. On a une baisse de quasiment 1% du Nasdaq qui est à 26 564 points. Un Dow Jones quasi inchangé à 51 566. Moins 0,61 pour le S&P 500. On est à 7 538. Mais alors, à noter une tension très forte du côté des taux américains, que ce soit les 2 ans, que ce soit le 10 ans, hein, qui repasse le cap des 4,5%, 4,53% après un rapport américain sur l'emploi qui était largement supérieur aux attentes.
Et on va en parler justement, ce rapport sur l'emploi. Encore une fois, l'économie américaine nous surprend positivement, John. 2 fois plus de création de postes qu'attendu au mois de mai.
Ouais, et j'ai l'impression et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'elle nous a déjà surpris négativement ces derniers temps? On attend toujours des chiffres négatifs, mais non, vous l'avez dit. L'économie américaine a créé 172 000 emplois en mai et le consensus était à 85 000. Donc, c'est le double. Et en plus, les chiffres d'avril ont été révisés à 179 000 créations d'emplois. Au niveau du chômage, il reste stable, hein, à 4,3%. Alors, on avait des interrogations sur le salaire horaire moyen. Eh bien, mensuel, il est à 0,3. C'était attendu par le consensus. Et en glissement annuel, c'est 3,4%. C'était aussi attendu par le consensus. Et si on va encore plus loin, peut-être ce qui est le plus intéressant dans ce rapport de l'emploi, c'est que lorsqu'on regarde l'analyse sectorielle, eh bien, ça montre que le consommateur américain continue de soutenir une large partie de l'économie. Vous avez le secteur des loisirs et de l'hôtellerie qui ont créé 70 000 emplois en mai, dont près de 50 000 de la restauration et les débits de boissons. Ça confirme donc que les ménages américains continuent de dépenser malgré les taux d'intérêt élevés et malgré l'inflation. Alors, quel est le message pour la Réserve fédérale américaine et surtout pour les investisseurs? C'est pour ça que les rendements des treasuries et notamment le 10 ans repassent au-dessus des 4,50. Eh bien, c'est tout simplement que c'est pas demain la veille que la Réserve fédérale va baisser ses taux parce que l'économie va, entre guillemets, beaucoup trop bien.
Effectivement, et d'ailleurs les taux américains qui remontent un peu à la hausse, remontent un petit peu tout simplement, plus 4,5%. Voilà, 4,53 là, le 10 ans américain à l'instant où on se parle, après ce rapport sur l'emploi, 2 fois meilleur qu'attendu aux États-Unis. Le salaire horaire moyen augmente comme prévu de 3,4% sur un an, on y reviendra. SpaceX, on est à une semaine maintenant de l'introduction en bourse. Alors SpaceX intégrera très rapidement le Nasdaq, ça on le sait. En revanche, et c'est la surprise du jour, finalement SpaceX n'intégrera pas tout de suite, en tout cas le S&P 500. John.
Oui, je dirais même que c'est la claque du jour pour Elon Musk, hein, parce que on avait l'impression, Elon Musk pensait que S&P allait assouplir ses règles qui normalement étaient qu'il fallait rester au moins une année cotée avec des besoins de liquidité aussi et puis aussi de bénéfices, hein, 4 trimestres de suite en tout cas. Eh bien là, ils ont dit tout à fait officiellement qu'ils n'assoupliraient pas les règles pour SpaceX. Pour rentrer dans le S&P 500, il faudra attendre au moins juin 2027. Et ça, c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que on s'attendait à ce qu'il y ait des flux naturels, vous savez, pour rentrer dans les ETF qui répliquent le S&P 500, des flux de 13 à 14 milliards de dollars d'achats automatiques qui auraient été faits dans ces 15 prochains jours. Donc, ça aurait été, bien évidemment, quelque chose qui aurait pu soutenir le cours de SpaceX, mais d'un autre côté, eh bien, faire souffrir les 499 autres valeurs du S&P 500. Alors, évidemment, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Ben, on va regarder des choses un peu plus fondamentales. Les résultats, l'appétit réel des investisseurs et les prévisions d'Elon Musk sur l'entreprise. On pourrait avoir aussi une volatilité un peu plus élevée parce qu'il n'y a pas, ce qu'on disait, un espèce de soutien naturel qui serait fait parce que on avait ces ETF qui devaient acheter SpaceX. Mais évidemment, et vous l'avez dit très justement, Guillaume, eh bien, dans 15 jours, SpaceX entrera dans le Nasdaq. Donc, vous avez des ETF qui répliquent le Nasdaq, mais la chose qui est un peu moins forte, c'est que, en fait, le Nasdaq est environ deux fois inférieur à l'entrée dans le S&P 500. Donc, il y aura beaucoup moins de pression là-dessus. Et c'est aussi un signal assez important hein, pour OpenAI. OpenAI et Anthropic qui seront bientôt cotés en bourse, qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent et que le S&P 500 eh bien, garde les pieds sur terre, contrairement au Nasdaq, il faut rappeler qu'il n'y a pas si longtemps a changé ses règles d'admission. Normalement, il fallait attendre au moins 4 mois. Ben là, c'est 15 jours.
Effectivement, c'est une bataille d'image aussi, hein, de statut entre le Nasdaq qui est prêt à revoir ses règles pour SpaceX et au contraire le S&P 500 en mode statut, quoi, statut du commandeur et institutionnel, en disant non, non, on ne va pas changer nos règles. Là, c'est vraiment une bataille. Alors, de crédibilité, je ne sais pas, mais voilà, on s'adresse aussi de façon très différente aux investisseurs quand on est Nasdaq et quand on est le S&P 500. Wall Street vient d'ouvrir donc à une semaine de l'IPO de SpaceX. On est en petite baisse sur les indices, moins 0,6 le S&P. Et alors, Elon Musk, avec cette introduction en bourse, va-t-il à lui seul, en tant qu'humain, valoir l'infini ? Après cette IPO, la fortune nette d'Elon Musk va représenter l'équivalent de 3% du PIB américain. L'équivalent du PIB de 125 pays aussi. À lui tout seul, Elon Musk, après cet IPO, sa fortune personnelle représentera 3% du PIB américain, comme c'était le cas en 1913 pour Rockefeller. Voilà. Juste avant l'introduction de l'impôt sur le revenu. On va suivre ça, bien sûr, c'est un compte à rebours quotidien. Et avec John, on vous le fera vivre, bien sûr, d'ici à vendredi prochain, où BFM Bourse, toute l'antenne de BFM Business, se mettra en édition spéciale au rythme de cette introduction en bourse. On attend aussi ensuite celle d'Anthropic. Sauf qu'Anthropic, sur l'IA, quand même, sonne l'alarme. Bien sûr, c'est un grand acteur de l'IA. Mais Anthropic avance l'idée qu'il faudrait peut-être ralentir, voire suspendre cet indéveloppement. Pourquoi, John ?
Oui, ça paraît assez fou. On a l'impression qu'Anthropic se tire une balle dans le pied ou c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Effectivement, ils ont proposé un mécanisme inédit de coordination entre les leaders de l'intelligence artificielle qui pourrait permettre aux principaux acteurs de ralentir, voire de suspendre temporairement le développement de modèles qui deviennent de plus en plus puissants. Et il est noté que c'est pour le bien de l'humanité. Donc, je suis très sérieux, Guillaume, pour le bien de l'humanité, eh bien, on aurait un certain espèce de bouton pressoir, alors évidemment, j'exagère, qui permettrait de ralentir la course à l'intelligence artificielle. Alors évidemment, le sujet est ultra sensible parce que évidemment il oppose deux visions. Vous avez ceux qui privilégient la sécurité, la maîtrise du développement de l'intelligence artificielle, et de l'autre, ben vous avez ceux qui craignent qu'un ralentissement volontaire, eh bien, ne freine l'innovation et profite à des concurrents étrangers moins réglementés comme.
Et oui, je crois.
On parle oui. De plus en plus de la réglementation de l'intelligence artificielle.
Oui, exactement. On espère que la liaison va tenir encore un instant. John, il y a eu une petite coupure rapide à l'instant. Juste pour évoquer aussi cet acteur des data centers dont on parle peut-être pas assez. Pourtant, c'est un immense développeur de data centers, Switch. On n'en a pas parlé encore hein, ici, mais même on en parle très peu alors que cet acteur-là est très présent dans les data centers, c'en est un des principaux développeurs. Eh bien, Switch serait en pourparler pour lever des fonds. Ce qu'il valoriserait Switch, combien ? 50 milliards de dollars. Allez, 50 milliards de plus, John.
Oui, j'espère que vous m'entendez mieux,
ça
là,
y est,
Guillaume.
C'est
mais,
bon.
Magnifique. Et ce qui est intéressant avec Switch, je vous l'avais dit, on n'en parle pas beaucoup, mais les clients, certains clients ne sont autres que Nvidia, FedEx, Tesla, Logitech. Et on voit qu'on est dans une nouvelle tendance de marché. Vous avez les investisseurs qui misent pas simplement sur les développeurs de l'intelligence artificielle, mais aussi sur les entreprises qui fournissent les infrastructures indispensables au fonctionnement. Vous savez, on a tellement parlé des pelles et des pioches qu'on avait lorsque il fallait aller prendre ces pépites d'or dans les mines, et c'est eux qui gagnaient de l'argent. Donc, effectivement, on va avoir normalement, faut faire attention, une introduction en bourse l'année prochaine, et on a des investisseurs de premier plan comme Brookfield, KKR ou aussi d'autres grands institutionnels qui participent aux négociations. Donc quelque chose à regarder de très très près. Et les chefs de file normalement seraient JP Morgan et Goldman Sachs, bien évidemment.
Effectivement, bien évidemment, ces grandes banques américaines qui sont sur tous les coups, et alors qui s'habillent aux couleurs des IPO qu'elles accompagnent. Par exemple, avec SpaceX, on les voit vraiment se lâcher. Morgan Stanley a mis ses ascenseurs et ses tourniquets à New York, au siège social de Morgan Stanley, aux couleurs de SpaceX. Goldman Sachs, dans son siège à New York, a installé une fusée, une petite fusée, on vous rassure, dans son hall d'accueil. Et Bank of America a transformé son immeuble à New York en rampe de lancement de fusée. La nuit, en fait, c'est la nuit que son immeuble, son gratte-ciel se transforme en rampe de lancement de fusée à travers un show lumineux, tout simplement, qui le fait passer pour un site de rentement, de lancement de fusée. Voilà où on en est hein, aux États-Unis. C'est absolument sidérant, mais c'est la tech américaine qui épouse et dont le potentiel est épousé par ces grandes banques qui ont beaucoup à y gagner aussi, hein, ces introductions en bourse, peut-être aussi d'autres, celle d'Anthropic, celle d'OpenAI. Et je vois Antoine qui lève le doigt. Antoine, ça vous inspire ça?
Non, mais justement, Elon Musk, pendant tout son show autour de l'introduction de SpaceX, a bien spécifié qu'il allait essayer d'avoir les commissions les plus basses de la part des banques pour son introduction en bourse. Donc les banques lui font de la pub et en même temps, il va essayer de les extorquer des frais les plus bas. Ouais. Il y a une forme de combat là-dedans qui est assez intéressante aussi, de savoir qui va avoir le dessus, parce que les banques, elles ne vont pas faire leur travail gratuitement, certainement pas, et certainement pas au rabais. Ouais, là aussi, un défi assez intéressant.
Effectivement, l'IA qui renverse tout, la tech, l'espace également. Régis Béguet, hier, dans BFM Bourse, nous disait que 60% des emplois actuels aux États-Unis, 60% n'existaient pas en 1940, figurez-vous, pour expliquer que ce marché de l'emploi se transforme toujours et qu'il y a toujours des destructions, créations d'emplois, de nouveaux emplois. 60% des emplois actuels n'existaient pas en 1940 et c'est sans doute vrai aussi ici en Europe. Régis Béguet, la Data Room, a retrouvé en replay, elle marche bien cette Data Room sur notre application BFM Business. Et pendant ce temps, John, Lululemon, parce que Lululemon est toujours debout. Lululemon a présenté ses résultats, le titre perd 8%. Il est debout, mais il courbe un peu le dos quand même.
Ouais, pourtant, on a l'impression de parler d'une société de la tech, hein, comme on l'a fait ces derniers jours. Ben, les résultats trimestriels ne sont pas catastrophiques, mais ils ont déçu, bien évidemment, le marché qui est habitué à l'excellence une nouvelle fois. Et la société a abaissé ses prévisions annuelles en signalant un environnement de consommation plus difficile qu'anticipé. Ça, c'est aussi assez intéressant parce que pour l'instant, ça se voit pas dans les statistiques. On l'a vu avec l'emploi qu'on vient de commenter et on a surtout un ralentissement en Amérique du Nord où on a une croissance qui montre des signes d'essoufflement après plusieurs années de performance exceptionnelle. On a des marges qui restent assez solides. Et la bonne surprise, alors qui se traduit pas aujourd'hui, mais la bonne surprise, c'est la Chine. C'est le point positif majeur avec une croissance assez robuste. Mais on voit aussi qu'aux États-Unis, on a de plus en plus de concurrents dans le même. Il faut rappeler que Lululemon, eh bien, c'était des habits qui, à la base, étaient prévus pour le yoga, notamment. Et effectivement, ça s'est développé. Ben là, on a de plus en plus de compétition, même dans ce domaine-là.
C'est compliqué hein, pour Lululemon quand même. Merci beaucoup. John Plassard avec nous pour Cité Gestion.